Il est 18h et vous écoutez France Inter. Bonsoir Fabienne Sintès.
Bonsoir Charline et les amis, à très vite. Pour nous c'est parti, le 18-20 de France Inter est ouvert pour 2 heures. Installez-vous bien confortablement et soyez les bienvenus sur la planète et sa banlieue. Le 18-20, c'est d'abord ce que vous devez retenir de cette journée du jeudi 6 janvier avec le journal de Sébastien Legénie. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
L'essentiel commence ce soir par un jugement sévère.
Des condamnations à de la prison ferme contre des policiers poursuivis pour violence et injures racistes lors de l'arrestation d'un Égyptien en 2020 en Seine-Saint-Denis. Un bico comme ça ne nage pas, avait lancé l'un d'eux, compte rendu d'audience en début de journal. L'Amérique qui se retourne sur l'un des jours les plus sombres de sa démocratie, un an après les attaques contre le Capitole, le président américain s'exprimait aujourd'hui, Joe Biden, qui entend tourner la page des mensonges, dit-il, de Donald Trump. On l'entendra. À suivre aussi le casse-tête des patrons de bar qui pourront bientôt contrôler la pièce d'identité de leurs clients pour vérifier la validité de leur passe vaccinal. Des malades guéris du Covid mais toujours enfermés, ça se passe à Hong Kong. Valérie Pécresse en campagne qui ressort le Karcher de Nicolas Sarkozy. Et puis du théâtre écrit par des femmes, encore trop peu nombreuses. Un festival leur est consacré à Paris.
À 18h15, un jour dans le monde, ce soir au Kazakhstan. Nous allons ensemble tâcher de comprendre ce qui se passe dans cette ex-république soviétique d'Asie centrale où, après de nouvelles manifestations, la police a tiré sur la foule, où la Russie a été appelée à la rescousse et a déjà ses hommes dans le pays. À 19h20, c'est le téléphone sonne et ce soir on pose la question qui fâche sans se fâcher. S'il vous plaît, peut-on encore convaincre les non-vaccinés? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qu'on leur dit? Est-ce qu'on considère que c'est bon? Toute pédagogie possible a été utilisée. Est-ce que de toute façon il y a un nombre incompressible de non-vaccinés qui n'iront pas, même sous la contrainte? Est-ce qu'on sait quel chiffre nous permet quand même de désengorger Réa et Urgence? Tout ça au 01 45 24 7000.
France Inter.
C'est donc un jugement sans précédent dans un procès contre des policiers.
Des peines de 6 à 12 mois de prison, dont 6 mois ferme pour certains. 6 policiers jugés après une interpellation mouvementée. C'était le 26 avril 2020 sur l'île Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis. Ils poursuivaient un Égyptien de 29 ans, soupçonné de vol de matériel sur un chantier et qui, lors de la course-poursuite, était tombé dans la Seine. Sorti de l'eau, un policier lui avait lancé un bico comme ça ne nage pas. Injure raciste enregistrée par la vidéo d'un riverain. Bonsoir Emmanuel Leclerc.
Bonsoir.
Mais ce que le tribunal de Bobigny a voulu sévèrement sanctionner aujourd'hui, ce sont surtout les violences commises après dans un fourgon à l'abri des regards.
Oui, alors que le procureur adjoint de Bobigny n'avait pas requis de peine de prison, faute de preuves selon lui, mais il y a eu cette bande sonore diffusée à l'audience en novembre dernier, et la présidente du tribunal l'a bien souligné. Des bruits sourds comme des coups portés à l'intérieur du fourgon de police et ces cris de la victime, suivis de rires de plusieurs policiers, un autre agent qui s'exclame « Il va passer un sale moment ». Résultat, vous l'avez dit, des peines de prison ferme, 6 mois avec port de bracelet électronique au domicile pour 4 policiers et 1 an d'interdiction d'exercer. Des peines qui ont stupéfait le banc des avocats des policiers concernés qui vont faire appel, mais surprise totale également du côté de l'avocat de la victime, Maître Ariel Halimi.
On n'est pas habitué en matière de violence policière et de racisme dans la police à des condamnations aussi claires, évidentes, avec des peines relativement lourdes. C'est vrai qu'on est un peu surpris, même si on mène un combat depuis très longtemps, parce que justement la justice est encore un petit peu au Moyen-Âge en la matière. Mais là, je crois que la violence et le racisme gangrènent à tel point la police que la justice commence à dire que ça n'est plus possible et à fixer les limites. Je pense que c'est un jugement singulier, symbolique, mais qui va marquer. On ne peut que s'en satisfaire.
Et pour le policier qui, après avoir aidé le suspect à sortir de la Seine où il a failli se noyer, avait lancé un bico, ça ne sait pas nager, eh bien le tribunal a estimé qu'il s'agissait bien d'une injure publique à caractère racial. On ne sait pas encore s'il va faire appel.
Emmanuel Leclerc du service police-justice de France Inter. Au chapitre judiciaire encore, on a appris que le procès des attentats du 13 novembre, suspendu depuis le test positif au Covid de Salah Abdeslam, eh bien ce procès est renvoyé jusqu'au 11 janvier prochain, jusqu'à mardi prochain.
Le Kazakhstan au bord du chaos.
Des dizaines de morts, plus d'un millier de blessés, des bâtiments publics incendiés, des policiers qui ouvrent le feu sur la foule. Ce pays d'Asie centrale, désormais coupé du monde. Internet et le téléphone n'y fonctionnent plus. Ce pays a basculé dans la violence depuis ce week-end, depuis des manifestations contre le prix du gaz, qui se sont désormais transformées en émeutes contre le pouvoir en place depuis 30 ans. La Russie annonce envoyer des troupes sur place. La communauté internationale appelle au calme. Nous ferons le point précis sur la situation dans le journal de 19h d'Hélène Philippe. Chili. Et vous y reviendrez, Fabienne, dans Un jour dans le monde. L'autre actualité à l'étranger, c'est la commémoration aujourd'hui de l'assaut des Trumpistes contre le Capitole à Washington le 6 janvier 2021. Un millier de Trumpistes qui forçaient les portes du siège du Congrès américain. Un an après, Joe Biden a pris la parole aujourd'hui solennellement depuis le Capitole lui-même, un discours d'une rare gravité dans lequel il tire à boulet rouge sur son prédécesseur Donald Trump sans jamais donner son nom. On écoute le président américain.
Nous devons décider aujourd'hui quelle nation nous allons être. Allons-nous être une nation qui accepte que la violence politique devienne la norme? Allons-nous être une nation qui autorise des responsables officiels partisans à renverser la volonté exprimée légalement par le peuple? Allons-nous être une nation qui ne vit pas à la lumière de la vérité, mais dans l'ombre du mensonge? Nous ne pouvons pas nous permettre d'être ce genre de nation. La voie à suivre est de reconnaître la vérité et de vivre selon elle.
Joe Biden traduit par notre correspondant aux États-Unis, Sébastien Pau. Réaction dans la foulée de Donald Trump par communiqué. Ce théâtre politique, dit-il, ne fait que détourner l'attention du fait que Biden a complètement et totalement échoué. Fin de citation. En France, c'est le premier bilan sanitaire de la rentrée scolaire. 25 000 élèves de la maternelle au lycée, 4 000 adultes testés positifs au Covid depuis lundi, c'est-à-dire 0,2% des élèves. Chiffre officiel de l'éducation nationale, des contaminations qui ont engendré un peu plus de 10 800 fermetures de classes tous niveaux confondus. L'autre inquiétude qui monte, c'est l'application du futur pass vaccinal voté en première lecture hier soir à l'Assemblée, discuté lundi prochain au Sénat pour une entrée en vigueur possible à la mi-janvier. Un pass obligatoire, notamment dans les bars et les restaurants, qui risqueront immédiatement une amende de 1 000 euros s'ils ne contrôlent pas le document. Les patrons qui auront aussi la possibilité de contrôler en cas de raison sérieuse la concordance entre votre passe et votre identité. En clair, vous aurez peut-être à sortir vos papiers pour prendre un verre. La droite compte saisir là-dessus le Conseil constitutionnel et pour les cafés et les restos de Marseille, c'est la goutte de trop. William Delesseux.
À côté du quartier du Panier, Samy Bergout tient le bar tabac Le Point de Vue. Le gérant a déjà eu des doutes sur les passes sanitaires présentées par ses clients.
Quand je vois la personne en face et je vois des fois le nom ou la date de naissance qui paraît faussé, oui, bien sûr. Le pass est valide, le client peut consommer. Je ne vais pas dans des questions assez privées. On va pas s'amuser à se la jouer videur. C'est impossible, c'est infaisable.
Pas question donc de demander une pièce d'identité pour Ilyes Benzeguir derrière le bar de la place. C'est tout réfléchi.
C'est pas à moi de faire ça. C'est ridicule parce que déjà, rien que demander le pass, je me sens un peu gêné. Même le client, quand on lui demande le pass, il y en a qui font des grimaces et tout. Alors, demander une pièce d'identité, pour moi, je pense que ça me dépasse, franchement.
En terrasse, Islam ne voit pas le problème.
Comme ça, il n'y aura pas de trafic, ça ne me choque pas.
Pour Pierre, accoudé à une table avec une pinte, demander une pièce d'identité, ce n'est tout simplement pas l'ambiance.
Je dois présenter mon pass et en plus de ça, ma pièce d'identité pour prouver. On n'est pas dans une atmosphère où on se sent d'être agressé comme ça.
Près de 200 000 faux passes sanitaires circulent, d'après le ministère de l'Intérieur. Marseille, William Delesseux, France Inter.
Les mesures sanitaires qui se durcissent donc dans l'examen, mais ce n'est encore rien comparé à certains pays d'Asie, en particulier à Hong Kong, où les malades guéris du Covid sont malgré tout soumis à une quarantaine de 15 jours minimum, enfermés dans un centre d'isolation comme celui d'Asia World Expo, qui vient d'ouvrir dimanche et qui accueille déjà une cinquantaine de guéris. C'est le reportage kafkaïen de notre correspondante sur place, Florence de Changy.
Dans cet immense open space éclairé au néon jour et nuit et où les haut-parleurs ne cessent de rappeler les consignes, 500 cellules d'environ 12 mètres carrés chacune sont collées les unes aux autres par blocs de 18, sans rideaux pour assurer la moindre intimité aux occupants de ce lieu surréaliste. Ce sont tous des ex-covidés, à présent pleinement guéris, parmi eux un Français.
Donc il y en a qui ont fait 10 jours, 20 jours, d'autres 30 jours, d'autres 40. Mais ils sont pas du tout contents d'être là, ils trouvent ça complètement... C'est un non-sens complet, hein. Mais ils sont, ils sont devenus passifs, en fait. Moi, pratiquement tous les jours, je demande au personnel pourquoi je suis là. D'ailleurs, je devrais enregistrer leur réponse. C'est toujours la même, c'est la procédure.
Cette mesure qui consiste donc à enfermer des patients guéris a été dénoncée par le professeur Bed Cowling, chef du département d'épidémiologie de l'Université de Hong Kong, comme nuisible au bien-être du patient sans apporter aucun bénéfice à la communauté. Mais si cet enfermement médicalement injustifié n'a aucun effet sur le contrôle de la pandémie, il a au moins pour effet certain de dissuader les gens qui peuvent s'en passer de revenir à Hong Kong. Hong Kong, Florence de Changy, France Inter.
La crise sanitaire qui vampirise la campagne présidentielle française ces derniers jours, notamment depuis les propos très médiatisés du président sur les non-vaccinés. Difficile donc pour les autres candidats d'exister dans ce contexte. Valérie Pécresse a donc décidé de revenir aux fondamentaux de la droite, la sécurité. La candidate des LR qui s'est rendue aujourd'hui dans le Vaucluse sur des points de deal de drogue avec dans sa poche les expressions emblématiques de son ancien mentor Nicolas Sarkozy. Extrait de campagne avec Anne Souhaitement.
Ce n'est pas l'emblématique d'Al d'Argenteuil, mais celle de Salon de Provence, un point de deal.
Tout autour donc de ce carré, tu avais tout ce qui était propice à du trafic de stupéfiants.
Rasé sur décision du maire en septembre dernier, après des tirs à l'arme automatique.
Il y a eu des échanges de tirs de Kalachnikov, ici, là, maintenant.
L'occasion pour Valérie Pécresse, qui tente de se faire entendre malgré la crise sanitaire, de parler sécurité, un marqueur fort à droite, en s'inscrivant dans les pas de Nicolas Sarkozy.
Il faut ressortir le Karcher, il a été remisé à la cave par François Hollande et Emmanuel Macron depuis 10 ans. Il est temps de nettoyer les quartiers.
Comme Emmanuel Macron dans Le Parisien, une formule choc, mais assumée.
Ce qui est brutal, c'est de voir ses enfants grandir avec des trafiquants en bas de l'immeuble.
Construction de 20 000 places de prison supplémentaires, intervention de l'armée si nécessaire. Valérie Pécresse décline ses mesures et innove en proposant la création de centres semi-fermés.
Des centres de détention provisoires dans des bâtiments désaffectés. Dans ces centres de détention provisoires, on mettra des délinquants, des primo-condamnés, des courtes peines, sous bracelet électronique. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ils n'exécutent pas leur peine, on leur met à la cheville un bracelet électronique et on les renvoie dans leur quartier.
Entamer sa campagne sur le régalien, sur des terres fortes pour l'extrême droite, et tenter d'instaurer un duel avec Emmanuel Macron, qui sera lundi à Nice, pour parler sécurité.
Reportage d'Anne Souhaitement. À noter qu'Emmanuel Macron lui sera en visite également à Nice lundi prochain pour aborder le même thème, la sécurité. C'est une sanction qui aura peut-être valeur d'exemple. La CNIL, gardienne de la vie privée des Français, a infligé de lourdes amendes, respectivement de 150 et 60 millions d'euros à Google et Facebook pour leurs pratiques en matière de cookies, ces traceurs numériques utilisés notamment pour la publicité ciblée et qu'on accepte très souvent sans réfléchir, trop compliqué de faire autrement.
On termine avec des textes de théâtre, Sébastien, écrits au féminin.
Le spectacle vivant est à la traîne sur la parité. Selon une récente étude, les pièces écrites par des autrices ne représentent que 29% des spectacles présentés en France pendant une année pour le théâtre public. Alors, pour donner plus de place aux femmes autrices, il existe depuis 10 ans le festival Le Paris des femmes qui commence ce soir à Paris, dans la capitale, avec plusieurs textes courts écrits par des femmes autour du thème de la rupture, Stéphane Capron.
Ces autrices viennent de différents horizons. Leur métier n'est pas uniquement d'écrire pour le théâtre. Cette année, on pourra entendre des textes de la chanteuse Barbara Carlotti ou de la comédienne Irène Jacob. Ce thème de la rupture a inspiré à la romancière Olivia Rosenthal le monologue d'une femme en colère contre la puissance des écrivains américains qui énoncent des vérités. Olivia Rosenthal aime écrire pour la scène.
De manière générale, j'écris toujours à la voix. C'est quand même quelque chose que j'entends, que j'écoute. Cette histoire de la voix, c'est vraiment très important pour moi. Donc au fond, il y a une espèce d'évidence à imaginer qu'un texte va être dit sur la scène. Donc ça change pas radicalement la manière d'écrire, mais là ce qui changeait beaucoup, c'était la nécessité d'écrire quelque chose de court.
Ce festival a été créé en 2012 par Anne Rothenberg dans le but de favoriser la création au féminin, et le chemin est encore long.
Ça évolue un petit peu, mais c'est vraiment à pas de tortue, hein. C'était un peu le festival, c'était aussi de rappeler chaque année ce sujet, cette question. Et puis le jour où on rappellera plus ce sujet, le festival sera un festival de création, de théâtre court, bien sûr.
Ce festival donne souvent des idées aux autrices qui retravaillent les textes. Certains sont devenus des romans, comme Otage de Nina Bouraoui ou Les Gratitudes de Delphine Le Vigan.
Voilà, Stéphane Capron avec le Paris des femmes. C'est à partir de ce soir à Paris au Théâtre de la Pépinière jusqu'au 9 janvier.
Merci beaucoup Sébastien Legénie. À tout de suite bien sûr dans Un jour dans le monde en parlant de Paris des femmes. Tiens, vous nous parlerez notamment de 3000 sorcières graciées.
Exactement.
En Écosse. Ce soir, nous sommes au Kazakhstan qui s'embrase avec le premier invité. Puis le téléphone sonne, je vous le remets en tête. Vous pouvez commencer à appeler au 01 45 24 7000. C'est vraiment le sujet de ces dernières 24 heures. On va se demander si on peut encore convaincre les non-vaccinés ou si c'est peine perdue. Si la réponse est oui, comment on fait? Si c'est non, est-ce qu'on sait quel peut être le taux de non-vaccinés qui nous permettrait quand même de vivre normalement dans nos vies comme à l'hôpital? Allez-y, n'hésitez pas. Et pour l'instant, un œil sur le ciel.
La météo à toutes jambes avec Bleu Forêt, le fabricant français de collants élégants. Noir ou vert, prune ou rouge, de toutes les couleurs, fin ou opaque. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Élodie Calac, bonsoir. Un peu de neige, dites-moi, demain matin.
Oui, du Massif central vers le nord-est, puis jusqu'aux Alpes, un petit saupoudrage, un peu de pluie sur le sud-ouest. Près de la Manche et au nord de la Seine, là, des averses, parfois un orage et du grésil. Ce sera plus agréable sur le sud-est et la Corse avec du soleil mais du vent. Et puis il fera moins 5 à 1 degré sur la plupart des régions, mais quand même 1 à 6 degrés du nord-ouest au nord de la Seine, ça remonte doucement.
Et l'après-midi, toujours beaucoup de nuages.
Avec quelques averses en prime, il restera un petit peu de neige sur les massifs. De nouvelles pluies s'inviteront de la Bretagne jusqu'au Hauts-de-France, avec parfois un petit peu de neige près des frontières du nord, et beaucoup de vent sur les côtes, jusqu'à 80 à 100 km à l'heure. Les éclaircies résisteront autour de la Méditerranée. Les températures, elles gagneront quelques degrés, avec 3 à 7 degrés dans l'est, 7 à 12 ailleurs, jusqu'à 13 à 14 au Pays Basque et en Corse.
Élodie Calac de Météo France, merci beaucoup. Élodie, à tout à l'heure après 19h.